stops you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le cinéma. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Camille André. Équipe technique ce soir, Jean-Benoît Tétu, Nadège Antonini et Stéphane Desmonts. Et autour de moi, en direct du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, il y a Corinne Rondeau, Antoine Guillot et Julien Gester pour que nous parlions ensemble de Senses de Ryusuke Hamaguchi, Takara, La nuit où j'ai nagé de Damien Manivelle et Koei Igarashi, et puis Comme des rois de Chabi Molia. Boris Pinault est également sur cette table pour surveiller les fils Twitter et Facebook et donner à entendre les commentaires ou questions que vous pourriez avoir à poser sur notre programme. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour l'exposition Napoléon Stratège. C'est jusqu'au 22 juillet au Musée de l'Armée à Paris. Et nous ouvrons cette dispute avec ce qui est présenté comme la première série au cinéma, Senses de Ryusuke Hamaguchi. On se souvient évidemment que Kiyoshi Kurosawa avait sorti en salle sous forme de diptyque Shokuzai, peut-être le plus beau film de 2013, qui était pour le coup la version remontée pour le cinéma d'une série pour la télévision. Là, Hamaguchi en fait a fonctionné comme un sens inverse puisqu'il a découpé son très long métrage, Happy Hour, un peu plus de 5 heures, qui avait été présenté en compétition au festival Locarno, où d'ailleurs les quatre comédiennes avaient reçu collectivement le prix d'interprétation féminine. On oublie l'accroche, disons, publicitaire, pour dire que cet objet cinématographique, dont les deux premiers volets sont sortis mercredi dernier, verra les deux suivants sortir mercredi prochain, et enfin le dernier, le mercredi suivant, soit cinq segments pour les cinq sens. Nous allons suivre quelques jours, quelques semaines dans la vie de quatre femmes, quatre amies qui vivent à Kobe.
Oh, mais taïa !
Bon, ici.
Arigato gozaimasu.
Ya, demo, ureshi.
Ie de konnani nakanaka hanno ikoto nai mon no.
Je j'espère vous avez quelque chose à me dire en fait pendant que je ne vous écoutais
pas, pas forcément crucial
pour les auditeurs. Sur la tête.
Mais il se trouve que c'était le même distributeur qui avait sorti Shokuzai, qui était déjà une série en salle.
Et oui, mais vous, avez mais vous faites bien de le dire. Oui. Et le nom de ce distributeur?
Alors, il a plusieurs incarnations. Mais
oui. En ce moment, c'est...
Je ne sais plus, mais il s'appelait précédemment version originale.
Art House, c'est ça le nom maintenant?
Et le distributeur lui-même s'appelle Eric Lebotte.
Voilà. Ah, bah alors, et vous avez son numéro de téléphone, son adresse?
Je vais vous donner après, je vous le donnerai hors antenne.
Bon, allez, c'est parti. Senses, puisqu'elle s'évente, qu'elle a chaud. Alors, c'est vanté sur un micro, ça marche jamais très bien à la radio. Corinne Rondeau, on commence avec vous sur Senses.
Oui, mais alors, il y en a qu'un qui est sorti là. Donc enfin, il faut parler de tout.
Hein, c'est ouais. Quand même.
Bon, en tout cas, moi, je vais parler de ma réception. En tout cas, j'ai eu la sensation que le réalisateur était un anesthésiste. En tout cas, c'est l'effet que ça a produit sur moi. À savoir, vous êtes sous anesthésie, vous suivez le fil de ce qu'on vous fait. Mais je n'ai pas eu, alors, comme le film en plus s'appelle Senses, que ça donc a trait aux cinq sens, que le film est en cinq parties à cause de ces cinq sens, que j'ai eu du mal à retrouver les sens sous les parties, que par ailleurs, le film a une grande capacité à immobiliser son plan, à faire des plans séquences qui sont durables, et en même temps, effectivement, ça crée une grande dimension hypnotique, je trouve, chez le spectateur. Mais en même temps, au-delà de chaque séquence, finalement, j'ai pas été... Alors, c'est très étonnant. Enfin, pour moi, c'est vraiment une espèce d'ovni, ce film, parce que, à la fois, je n'ai rien à en dire, parce que je n'ai rien ressenti, et en même temps, ce film, je l'ai vu dans les 5 heures d'affilée. Ce qui veut dire qu'il m'a attrapé quelque part. Mais par quoi? Ça, je ne sais pas. Alors, ma réserve vient du fait que Il traite en fait des évaporés du Japon. Enfin, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de ça. C'est une tradition chez les Japonais. Si on a honte, si il y a une lâcheté quelconque parce qu'on est très digne, on peut se suicider ou disparaître, s'évaporer, le joie dessus, comme on le dit, disparaître, les évaporer du Japon. Il y avait un livre qui était sorti en 2014 d'ailleurs là-dessus. Donc il y a cet élément-là dans le film qui est d'ailleurs décliné à plusieurs reprises à certains moments. Donc voilà, je veux dire, qu'est-ce que c'est, quatre filles qui se rencontrent, qui s'aiment bien, qui prennent leur agenda pour noter leur prochain rendez-vous, et puis il arrive quelque chose, c'est-à-dire ce qu'on ne va pas dire en général dans la société japonaise, quelque chose va déclencher l'événement, et quand on est passé sur un divan, un peu comme moi, on sait que quand quelque chose se passe en vous, tout le tour autour de vous change. Donc ce film, c'est ça, c'est quatre filles dont une qui va faire le choix d'un retrait volontaire, et cette disparition est un étonnement pour ces trois autres amis, puisque finalement, ils ne se sont pas dit. Donc, le film tourne autour du non-dit, autour de la politesse, aussi, c'est un film où on dit beaucoup merci, pardon, d'ailleurs, c'est assez exaspérant, mais en même temps, c'est la culture japonaise, et donc, d'un coup, il y a quelque chose de cette politesse qui va un peu s'inverser pour s'interroger sur la place de chacun à l'intérieur de sa propre vie, sa famille, son travail, l'après-divorce, puisqu'elles ont toutes quatre vies, on va dire, hein. Et donc je suis vraiment très embêtée, je préfère attendre que mes camarades parlent parce que je
ça vous réagir
à la fois cinq heures que j'ai vu non-stop sans vouloir m'arrêter et en même temps je trouve rien d'exceptionnel sinon un grand réalisateur qui arrive à mettre des plans en continu 15 minutes de lecture d'une nouvelle par exemple où la question ensuite va se poser là c'est la mise en abîme du film et tout parce que ça réfléchit beaucoup hein.
Ouais, vous développerez cette phrase un peu mystérieuse quand même que vous venez de prononcer, Corinne Rondon, dans un instant. Julien Gester sur Senses.
Mais précisément, arriver à mettre en scène ça, 15 minutes. Il y a des gens qui mettent énormément de choses dans 15 minutes en termes d'événements, de péripéties, qui on s'ennuie mortellement. Et c'est déjà ce qui se joue dans Senses, qui s'appelait précédemment Happy Hour, ce titre-là que je l'avais découvert. Je vais y revenir. C'est déjà la découverte d'un cinéaste en fait, qui est un cinéaste japonais dont on avait jamais entendu parler en France, dont il y a derrière lui un certain nombre de films qui sont totalement inédits, et dont le prochain film sera en compétition à Cannes dans une semaine. Et donc c'est l'occasion de découvrir ce film, à travers ce film, un cinéaste, un metteur en scène de très très grand talent, je pense. Moi j'avais la chance de découvrir pour le coup dans le film dans sa forme originale au Festival de Locarno où il était passé il y a 3 ans, où vous l'aviez évoqué, il avait été primé. On ne savait absolument pas qui était ce monsieur qui l'avait pris de faire un film de 5h17. Pourquoi il avait qu'est-ce qui avait piqué les sélectionneurs de l'avoir placé au dernier jour du festival, qui est quand même un moment en général où les spectateurs, les festivaliers ont développé une certaine intolérance à la salle de projection.
Il y a Locarno, Clave Diaz peut avoir le Grand Prix quand même. Voilà. Mais plus long.
Bien sûr, certes, mais il était présenté plus tôt dans le festival. Et il faut voilà. Et par ailleurs, qui est un festival où on est, qui a beaucoup de qualité, mais on est assez mal assis. Donc ce film n'avait vraiment rien pour lui, enfin de ce point de vue-là, en tout cas a priori sur le papier. Et j'ai vu ce film dans une salle de 6000 places avec des gens qui, je pense, savaient aussi peu que moi ce qu'ils allaient voir. Et qui sont restés pour 99,9% jusqu'au bout de ces 5h17, un peu ébahis, dans un état assez religieux, qui je pense est un des miracles de la projection en salle de cinéma, et qui tient vraiment, je pense, à une science de la mise en scène, de l'économie des durées, qui fait que voilà, il y a quelque chose dans ce film, le film qui se déploie, qui aurait pu être, on pourrait raconter tout à fait la même histoire sur 1h30, mais moins finalement en enlevant des scènes qu'en ramassant tout au plus court, et ce serait probablement très ennuyeux en fait, paradoxalement. Ce qui se joue vraiment dans le film, c'est le procédé du film. Au fond, ce n'est pas tant d'ajouter, comme dans une série télé, des péripéties, des couches de fiction les unes derrière les autres, des personnages, de la profusion narrative, que de rentrer vraiment, de forer dans chaque situation pour aller jusque dans vraiment ce qui atteindre, au fond, je pense que c'est ça le grand projet du film, atteindre à la structure cachée, la structure intime de chaque situation, qui sont des structures sociales, qui sont des structures émotionnelles, qui sont des structures sensibles. Ce qui permet aux personnages de se dévoiler de manière extrêmement nuancée, en avançant vers eux, en avançant vers une intériorité des rapports de ces quatre femmes et de leur environnement, ces quatre femmes qui se trouvent toutes dans des prises, dans les raies de situations conjugales qui leur sont propres, qui sont, leur sont singulières. Et il va y avoir ce moment où l'une d'entre elles donc va s'effacer et où, comme le disait justement Corinne, ça produit cet effet de comme si elles se soutenaient toutes les unes les autres et que ça produisait une forme d'affaissement au moins provisoire qui remettait absolument tout, qui rebattait les cartes pour toutes et qui remettait à terre toutes les autres en même temps.
Une démonstration de l'effet de la théorie des dominos.
Absolument. Ben oui, ce serait quatre dominos qui se tiendraient les uns les autres, et puis vous en enlevez un, et c'est, on est plus dans le château de cartes, au fond, que
ouais, mais il y a une forme de contagion aussi.
Absolument. Dans cette et ce qui est très, donc ce qui est très fort, c'est cette capacité à accueillir cette durée, et à aucun moment, je trouve, ne la faire ressentir comme telle, mais parce que, précisément, on est dans une économie du temps, de la durée, de ces situations, qui fait qu'on peut tout à fait passer 20 minutes à assister à une sorte d'atelier ésotérique qui nous parle possiblement assez peu, et puis ensuite peut-être 30 au débrief de ce qui vient de se jouer entre les personnages, tandis que se dénudent les rapports de force entre les uns et les autres.
Antoine Guillaume, qu'on n'a pas encore entendu sur Senses de Ryusuke Hamaguchi.
Je suis rentré dans ce film avec une certaine méfiance, je dois dire, parce que ce découpage me semblait, comme le disait Corinne Rondeau tout à l'heure, assez arbitraire, et là, pour le coup, c'est peut-être une bonne idée d'exploitation de le découper en 5 morceaux et de l'étaler, même si on sait que chaque semaine, malheureusement, dans ces cas-là, il y a un peu moins de spectateurs. Mais l'idée de mettre des sens dessus, parce qu'on le fait en 5 parties, parce que le film dure 5 heures, est effectivement complètement arbitraire, parce que ça nous pousserait à chercher en quoi telle ou telle partie parle particulièrement. Alors, dans cet atelier ésotérique dont parlait Julien Gester, il est question de toucher et d'écoute, effectivement. Mais alors, pourquoi après il y a le goût, etc. Je crois qu'il faut complètement l'oublier et le voir si possible, parce que ça va être projeté.
Autant que ça marche pas tellement bien.
Voilà. Ça va être projeté dans certaines salles.
Ce week-end.
En continuité, comme ça.
Demain au Max Linder à Paris. Dans le week-end, il y a une douzaine de villes qui font le marathon et qui est, je trouve, très recommandable pour avoir découvert le film.
Si vous pouvez voir Senses comme ça, voyez-le.
Alors, haute méfiance, je craignais, l'impression que me donnait la première scène, d'avoir un peu une typologie de la femme japonaise avec la femme au foyer, la divorcée qui travaille, celle qui est en cours de divorce, celle qui est très active et qui est dans un rapport apparemment équilibré avec son mari. Donc j'avais peur que chaque personnage endosse comme ça une typologie sociale pour nous délivrer un discours sur ce que c'est qu'être une femme au Japon aujourd'hui. Fort heureusement, très vite, ça dérape et ça sort de ça, parce que je crois que le film, tout en disant il est important d'écouter l'autre, le plus important c'est d'écouter l'autre, il faut exprimer ses sentiments, a la volonté de réaliser le vieux fantasme du cinéma, de pouvoir, en filmant la surface, atteindre la vérité intérieure d'un être. Sauf que ça se complique dans le cas des Japonais, parce que je crois que ça parle bien au-delà de la femme japonaise. C'est vraiment un portrait qui s'étend au fur et à mesure à l'ensemble de cette société-là, société japonaise d'aujourd'hui, c'est que ces sentiments, il y a un entraînement culturel à ne pas les exprimer. Donc, le moindre frémissement devient un événement qui va peut-être pouvoir dire quelque chose. Alors, tout finit par se dire par la parole, mais ce que je trouve très beau dans ce film qui parle effectivement d'équilibre et de déséquilibre, et il y a ce personnage d'artiste qui est dont la pratique artistique est de mettre en équilibre des choses un peu cassées, ce qui résulte d'un tremblement de terre, d'un raz-de-marée, et atteindre un équilibre miraculeux qui va tenir un certain temps. C'est une manière de nous dire, voilà, c'est vraiment là que ça se joue, qu'est-ce qui est en équilibre, qu'est-ce qui est en déséquilibre. Mais la mise en scène elle-même,
lui-même récusant ce terme d'artiste,
voilà,
c'est pas inintéressant dans le film.
Là aussi, les choses se complexifient au fur et à mesure. C'est qu'un personnage qui nous a l'air antipathique va nous montrer quelque chose de sympathique tout en restant antipathique. Mais ce qui est intéressant, c'est cette dualité en permanence. Et tous les personnages fonctionnent de la même façon. Mais ce qui est très beau, c'est que la mise en scène qui passe son temps en général à filmer des scènes de discussion, parce qu'il y a énormément de scènes où les personnages sont rassemblés autour d'une table, va jouer ce déséquilibre en permanence, changeant d'axe très souvent dans la façon de filmer, va reconfigurer même notre regard sur la manière dont nous envisageons l'équilibre au sein de ça. Et après, le phénomène de la durée, qui est celui qu'on connaît là pour le coup, le rapport avec la série télévisée est là, avec l'archétype en moins, c'est que les personnages nous vivent avec nous. On a vraiment, on est intéressé à ce qu'ils deviennent, et tout en changeant d'avis, comme je le disais, sans arrêt dessus. Et le fait de changer changer d'avis ne change rien profondément à ce que, la manière dont on peut envisager les choses. En fait, c'est, nous-mêmes, on est en déséquilibre permanent et pour moi, ça se joue beaucoup sur la mise en scène.
Alors, peut-être avant que j'intervienne véritablement, Boris Pinon, un commentaire qui arrive sur Twitter, je crois.
Facebook, Violette Villard sur Facebook qui conseille une posologie à adopter pour regarder Senses, savoir endurer l'indigeste scène centrale de ce premier volet, l'interminable séquence de repas après l'atelier d'écoute. On se croirait au beau milieu d'un stage maladroit d'accouchement lourdingue des refoulés de chacun. Si l'on ne pique pas du nez donc ici, la suite vaut pour une certaine grâce de l'air, une façon de filmer les hommes dans la pénombre, une mélancolie incertaine du personnage de June, la tentation incubée de chaque plan vers le vide, une espèce d'avortement du fantastique qui crée la tension de ce film cascade tellement bavard.
Alors, en complet ou presque désaccord avec notre auditrice, Violette Villard, cette scène centrale du premier épisode, moi je la trouve extraordinaire. Il y a peu de films où j'ai pu ressentir cela. C'est-à-dire que pendant sa projection, on a le temps quand même de penser au film. C'est aussi l'avantage de la durée des plans. Et on fait aussi pour cela, pour que les questions qui sont posées par les protagonistes, on puisse soi-même se les poser. Moi, ça a agi tout à fait à plein sur moi, sur la question de l'inhibition, de la parole, de comment exprimer des émotions. La question de la durée, hein, c'est vrai, c'est un débat. La durée des plans et des séquences, c'est un débat qu'on a très régulièrement, d'autant plus régulièrement que, par exemple, la semaine dernière, on en parlait pour Mila, le film de Valérie Massalian avec le merveilleux Luc Chessel. Révélation de ce film, c'est un collègue de Julien Gister à Libération, par ailleurs, quand il n'est pas comédien. Il y avait débat autour de cette table, cette façon de faire durer le plan, trop, pas assez. Donc, alors, moi, je crois que dans le cas de Senses, cette scène qui a failli endormir Violette Villard, elle aurait pu durer sans doute 15 ou 20 minutes de plus, sauf que non, c'est la durée juste qu'elle fait. Et il y a une science du montage que je trouve absolument particulière. Moi, j'ai l'impression d'avoir jamais vu cette façon d'introduire des plans de coupe sur des visages qui sont pas forcément actifs dans la conversation, qui tout d'un coup nous font nous dire comment ce personnage écoute ce qui est en train de se dire, que moi j'ai trouvé absolument fabuleux. C'est un film qui m'a mis sans arrêt en éveil. Enfin, il y a quelque chose qui était complètement opératoire sur moi, pour employer un gros mot. Et c'est vrai que, bon, moi, j'adhère totalement, pleinement à Senses, Julien Gister.
Mais je vous rejoins là-dessus, sur ce que vous décrivez presque comme un espace dialectique, enfin, ménagé pour le spectateur. C'est un film très, très accueillant. Je pense que c'est pour ça qu'on s'y loge aussi facilement, alors qu'on, a priori, la promesse pouvait ne pas forcément être très séduisante sur le papier, d'autant que c'est un film qui est aimé a priori de par la faible notoriété de son réalisateur, de ses acteurs, etc. Très peu d'effets de séduction, et puis voilà, sa durée, son découpage, bon. Mais ce que je trouve, pour prolonger ce que disait Antoine Guillot tout à l'heure, je trouve que ce qui est très beau, c'est la manière dont il y a à la fois ce projet de mise en scène, de narration longue, qui encore une fois n'est pas là pour ajouter la profusion, mais pour creuser vers une complexité plus grande des situations, pour atteindre cette complexité-là, pour suivre cette pente-là, plutôt que juste d'étirer, comme on pourrait parfois penser que quand on parle de plan-séquence, c'est pas un film qui est dans des effets de contemplation, mais qui est dans des effets d'accompagnement, au fond, de situations qui sont là pour durer leur juste... s'étendre sur leur juste durée. Mais ce que je trouve très beau par-dessus tout, c'est la manière dont cette mise en scène, au-delà de cela, elle travaille vraiment, il me semble, en permanence à poser cette question de ce qui fait tenir ensemble, on en revient à cette question de l'équilibre, de ce qui fait tenir ensemble, en fait, deux êtres dans une amitié, dans le cas de ces quatre amis, dans un couple pour toutes les situations, et puis même évidemment dans un plan, parce qu'il y a une part très réflexive dans la manière dont justement les scènes se déplient et se replient sur elles-mêmes par des effets de découpage, de durée, etc.
Bon, on ne semble pas avoir inspiré davantage Corinne Rondeau sur ce film. Hein. À nous écouter, vous avez l'air dubitatif.
Non, mais
Corinne,
j'entends votre fascination, je peux tout à fait la comprendre. Pour moi, c'est un film de table.
Exaltation, moi, je dirais. Hein.
Oui, exaltation, c'est un film de table, en fait. Ils sont tout le temps assis, il y a des repas. On commence à 4, et puis après 3, et puis ensuite il y en a qui partent à table, et effectivement quand vous êtes face à 10, 15, 20, 30 minutes, moi peu importe le plan, ça ne dérange pas les séquences longues du tout, mais quand on est habitué, quand le film vous met tout le temps à la discussion, tout le temps à la table où les choses vont se faire avec du millimétrage, parce qu'on est au Japon, parce que on n'est pas dans l'expression, on n'est pas dans la passion, où tout doit se c'est indéfinissable,
non,
finalement, les types de
réactions. C'est pas vrai, parce que je crois que c'est Akari, hein, l'infirmière, c'est, elle est carrément sans filtre. Elle envoie des choses pour que ça réagisse en face.
C'est juste le contraste. Ce film est fait aussi avec une intelligence pour les contrastes. À quel moment ça doit, hop, comme le personnage qui leur fait le cours, ce travail qu'il y a avec l'ombre, les ombres souvent de certains personnages, d'ailleurs masculins. Et puis le film commence par une montée en funiculaire, donc on va vers la lumière, on va traverser un tunnel, enfin tout est inscrit. Enfin, moi je n'ai pas eu de surprise, j'ai pas eu d'attente, j'ai eu juste le fait de se dire mais où est-ce qu'ils vont aller, parce que quand on est là et que quelque chose est en train de fracturer une structure relationnelle, évidemment il y a des effets. Ensuite, je crois que c'est un film vraiment japonais dans lequel il y a toute la société japonaise, et je pense qu'à un moment donné je peux pas me dire que je vis la même relation.
Non, mais bien sûr, mais ça, enfin, voilà. Je trouve que ça renseigne.
Et après, je peux pas m'attribuer un film qui est nippon à la sauce française. Maintenant, même si on s'exalte, moi, je suis contente pour vous. Hein.
Non, mais la question.
Moi, je vais pas passer un mauvais moment.
La question de l'amour, de l'amitié, du couple.
Oui, mais en fait, le film, si vous regardez bien, ne parle que de la distinction. En fait. Le truc principal, à la fin, enfin vers la fin, il y a le mari qui vient, et en fait il y a ce problème, on va lire une nouvelle de 15 minutes, et en fait la personne qui devait faire le débat avec l'écrivaine n'est pas là, et c'est quelqu'un qui serait pas censé amener le débat. En fait, il fait un super débat, et ensuite on s'étonne que ce type dont on suppose qu'il n'a pas de sensibilité ait été aussi juste. Et en fait, tout le film est organisé sur le mensonge et la vérité. Et est-ce que ce que nous produisons comme apparence ou dans les structures sociales vaut comme ce que nous avons dans une intériorité ? Donc ça, 5 heures, c'est bien filmé, c'est digeste.
Oui, mais quand vous dites que c'est nippon, ce n'est pas que nippon.
Ah si, si, je le crois vraiment.
À mon sens. Antoine Guillot ?
On n'a pas du tout les mêmes structures familiales, sociales, de dignité, de respect.
Ça dépend quelle famille. d'abord.
Parlez-nous de vous.
Et puis non, il me semble que ça dit des choses extrêmement justes sur l'incapacité, qui me semble très contemporaine pour le coup, à exprimer quelque chose, à savoir ce que c'est que de dire une vérité, et même de pouvoir ressentir quelque chose, parce que ce qui est très troublant pour beaucoup de ces personnages, c'est qu'il y a un moment où ils se plaignent eux-mêmes d'être dans l'incapacité, même pas d'exprimer des sentiments, mais d'avoir même des sentiments, de savoir ce que c'est un sentiment. Il y a un sentiment, pour le coup, d'une société en train de mourir à l'intérieur même des personnages, et il me semble que ça dépasse de loin le cas nippon.
J'aurais beaucoup de choses à dire encore sur Senses. On pourrait en parler donc le vendredi prochain, le suivant, pour les autres numéros. Non, on a déjà un programme de prévu. J'ai appris qu'en fait, ces quatre comédiennes sont au départ amateurs, puisque c'est un atelier qui a duré un an.
Mais il y a une mise en abyme.
Non, mais parce qu'on critique beaucoup Bruno Dumont, notamment dans notre pays, pour faire jouer des gens qui sont pas des professionnels. Hein, c'est pas bien. Il vient voler l'argent des vrais comédiens. Non, mais là, pour le coup. Pardon.
Enfin, les gens font vraiment encore ça. Enfin,
bah oui.
Non, mais il me semble. Oui.
Non, mais là, voilà, on a quatre interprètes que nous on ne connaissait pas et qui sont des comédiennes que j'ai trouvées d'une justesse, d'une précision, d'une finesse quand même assez rare. Voilà, c'est juste ce que je voulais souligner. Et souligner avec Boris Spino les endroits. Thomas Beau nous a trouvé ça, réalisateur, où vont être projetés, l'intégrale de Happy Hour, on va l'appeler comme ça, Senses.
Oui, rendez-vous donc le 5 mai demain au Renoir d'Aix-en-Provence, à l'Atalante de Bayonne, à l'UGC Bordeaux, au Luxe de Caen, au Majestic de Bastille, au Bellecour de Lyon, aux Variétés de Marseille, à Orléans, au cinéma Les Carmes, au Max Linder de Paris, donc au Méliès, à Pau, à l'Arvor de Rennes, et le 6 mai au Star de Strasbourg.
Et ben voilà, pour voir tout d'un coup Senses, sinon on pourra le voir d'un mercredi à l'autre. Les deux premiers sont sortis mercredi dernier, les deux suivants mercredi prochain, et le dernier volet dans une dizaine de jours. Maintenant, à suivre dans la dispute, Takara, la nuit où j'ai nagé. On ne va pas vraiment quitter le Japon, vous l'aurez peut-être compris, et Comme des rois.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Pour la suite de cette dispute consacrée ce soir au cinéma, en direct en public du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, pendant que Julien Gestet et Corinne Rondeau rigolent, nous allons parler de Kakarot. Takara, la nuit où j'ai nagé. Damien Manivelle, qui nous avait, enfin qui m'avait en tout cas envoûté avec Le Parc, sa précédente réalisation, revient avec un film tout aussi inclassable, co-signé donc avec Koe Igarashi. On va suivre un petit garçon, tout petit, qui va traverser des paysages enneigés, sans doute pour aller chercher son père, à qui il aurait un dessin à donner. Faire de trouver un élément sonore à diffuser pour entrer dans notre discussion sur Takara, tant ce film est mutique, Julien Gester.
Oui, parce que ce petit garçon que vous décriviez qui traverse tout un tas de paysages et de situations ne parle pas. Donc voilà, et comme on ne suit à peu près que lui durablement, évidemment le film se passe de paroles. La description, enfin il y a beaucoup de descriptions qu'on pourrait faire de ce film qui en ferait un film. J'ai presque failli dire ça aussi tout à l'heure de Senses, mais qui en ferait un film contemplatif. Et je crois au contraire que c'est tout sauf ça. C'est un film, c'est un film d'action, d'action au pluriel. C'est-à-dire que il y a Damien Manivelle, bon, qui est ici en co-réalisation, mais est toujours quelqu'un qui dont les films s'appuient sur des dispositifs très précis, très clairs. Et ici, il s'agit vraiment d'assister, d'accompagner dans cette, avec une mise en scène, je pense, qui est très précise et qui est très soucieuse, très très sensible à tout ce qui se joue dans dans les paramètres à la fois spatiaux, sonores, etc. de chacune de ces situations, d'accompagner la mise en relation entre ce corps de petit garçon engoncé dans ses vêtements très chauds, puisque c'est il traverse la région la plus enneigée du Japon, des décors, des situations, des lois physiques qui le font glisser sur la glace, qui le font déraper sur la neige, qui le font tomber à tel autre endroit. Et c'est une figure de petit garçon qui nous apparaît d'abord, je pense, un peu auréolé, forcément, quand on a vu ces films, d'une certaine mythologie dans le cinéma japonais, de ces silhouettes de petits garçons qui font des bonhommes de neige, que ce soit les enfants du cinéma d'Ozu ou le petit garçon du film Le Petit Garçon de Nagisa Oshima, ce qui peut donner une forme d'aura un peu tragique à celui-là. Mais justement, il y a quelque chose de très simple et qui serait tentant dans lequel il serait tentant de voir une forme d'onirisme ou quoi, mais je pense qu'au contraire c'est un film très concret, c'est-à-dire à la poésie très concrète, réelle, là, mais absolument pas environné d'effets, d'imaginaire ou de narration qui viendrait colorer cette trajectoire-là d'un regard d'adulte ou d'un regard presque en fait humain. Enfin, c'est-à-dire que c'est littéralement tout ce qui importe ici, dans ce qui produit du gag, dans ce qui produit de l'amusement, dans ce qui produit par moment donné, je trouve, presque de la sidération, parce qu'il se joue presque plastiquement ou au son dans ce film, c'est littéralement ce qui est d'abord traversé par la perception de ce petit corps d'enfant, en fait, et de sa mise en relation avec donc cet environnement qui est déterminé par une narration extrêmement ténue, mais je trouve qu'on se passe tout à fait d'un enrobage dramaturgique supplémentaire, tant il se passe des choses à la fois infinitésimale et spectaculaire dans chacun de ces moments.
Oui, il a une mission à accomplir, Takara. Antoine Guillot.
Là encore, je suis rentré dans le film avec des craintes. C'est ma journée crainte. C'est-à-dire que
c'est votre année crainte.
Je craignais le film un peu poseur, pour tout vous dire. C'est-à-dire les premiers plans, le cadre en 1:33, cette neige sur fond noir, et puis un plan très long sur un escalier vide, et un plan très long, un plan large sur un homme qui fume dans sa cuisine et puis qui va se rallumer une cigarette. On dit, mon Dieu, on est parti pour du plan extrêmement composé où il ne se passera jamais rien et où ça va durer très longtemps. Et puis arrive, alors, un petit miracle de cinéma, ce personnage, ce drôle de personnage qui est ce gamin Takara, qui est vraiment filmé comme une sorte d'extraterrestre, comme une sorte d'étrange créature, pas parce que ça la regarde comme à distance ou exotique, mais on est pas du tout dans le qu'est-ce qu'il est mignon ce petit garçon.
Ah bon, vous trouvez? Moi, je trouve absolument craquant.
Avec
moi,
le côté, mais je trouve qu'il n'appuie
il
pas.
Il est irrésistible.
Il n'appuie pas sur le côté kawaii de la petite bouille toute ronde, etc. Il est montré pour moi comme un être étrange, à la démarche étrange, accomplissant une mission tout à fait étrange avec beaucoup de mystères, comme pourquoi y a-t-il une mandarine cachée sous une énorme boule de neige à l'entrée de l'école? Alors, est-ce qu'il prépare un plan d'évasion depuis longtemps? Cette façon de filmer l'enfant insomniaque seul, comme ça, dans la nuit, faisant des installations étranges et les prenant en photographie, c'est vraiment l'étrangeté pour moi qui m'a beaucoup frappé, y compris dans cette manière de marcher. Autre écueil que je suis vraiment reconnaissant au réalisateur d'avoir évité, c'est il est tout seul dans la nature et dans la neige. Quand est-ce qu'il va lui arriver une catastrophe? C'est-à-dire, il marche au bord d'une rivière, est-ce qu'il va tomber dedans? Est-ce qu'il va être pris dans une tempête de neige? Est-ce qu'il va se faire écraser sur la route? Et on n'est pas du tout là-dedans. On est dans plein de petits miracles cinématographiques comme ça, dont un, par exemple, qui m'a beaucoup touché, où il attend un train. Voilà, il attend un train, et tout d'un coup, il y a un paquet de neige qui tombe d'un lampadaire au-dessus. Et ça, c'est vraiment le bonheur d'un cinéaste d'avoir capté le moment. Et je pense pas qu'il y ait un effet spécial pour faire tomber cette boule de neige.
Comme ça, ils ont tiré sur un câble.
Mais la réaction
d'être crédule.
La réaction, mais voilà, mais ça a marché. Vive les effets spéciaux. C'est peut-être un effet spécial numérique, je ne sais pas. Mais en tout cas, la réaction du gamin à ce moment-là, sa surprise est formidable. Et on sent que le film est emmené par la capacité de jeu et d'invention même de cet enfant quand il va aboyer avec des chiens, quand il va sa façon de s'endormir, qui manifestement il le filme vraiment en train de dormir, ou il le filme vraiment dans un état d'hébétude qui est celui du garçon qui manque de sommeil. Et ça produit des effets cinématographiques assez rares, justement parce qu'on n'est pas ni dans l'apitoiement, ni, alors vous l'avez sûrement trouvé craquant, mais moi je ne l'ai pas trouvé mignon. Je l'ai trouvé une sorte de créature étrange du cinéma japonais.
Ah, c'est drôle, parce que alors, moi je l'ai trouvé absolument irrésistible, ce petit garçon, mais pas du tout comme un extraterrestre. Moi j'ai vu un petit être humain, enfin, mais avec sa détermination, avec ses réactions aux imprévus. Mais alors, j'étais pas là, c'était Lucille Comeau qui me laissait cette dispute. Je vous ai entendu avec joie, Corinne Rondeau, parler d'Allons enfants de Stéphane de Moustier, qui suivait donc à hauteur de cette petite fille, parce que c'était essentiellement elle qu'on voyait, même âge, je crois, 6 ans, me semble, 5 ans peut-être, enfin, 3, oui, carrément. Enfin bon, j'ai vu le film il y a déjà trop longtemps. Moi, j'avais été absolument sous le charme de Allons enfants. Je parlerai de Takara dans un instant. Et vous, Corinne Rondeau, Takara?
Oui, j'ai beaucoup aimé ce film, parce que d'abord, ça ne parle pas. Ensuite, parce que c'est 24 heures.
Ça vous a
heures.
Changé de Sensis.
Non, mais parce qu'en fait, c'est très intéressant, parce que Sensis, ça parle pour vous faire voir. Celui-ci ne vous parle pas pour vous donner des images. Donc, allez voir les deux, quoi.
Complémentarité.
Voilà. Et non, c'est 24 heures dans la vie d'une famille. Voilà. Et il se trouve qu'on va faire l'école buissonnière. Voilà. Et effectivement, on suit. Ce que j'ai beaucoup aimé. Alors, contrairement à Antoine, j'ai beaucoup aimé ce plan de fenêtre dans la nuit avec ces flocons qui passent, en me disant, tiens, il y a un monde extérieur et étrange, même si je reconnais de la neige, mais le flocon m'a l'air trop gros derrière cette fenêtre. Je me suis dit, il y a un monde extérieur. Et en fait, ce monde extérieur, c'est le monde du petit Takara. Enfin, moi, c'est comme ça que je colle les trucs. Hein. Mais ce qui est certain, c'est que là où j'ai accroché, c'est au moment où le petit garçon perd son gant. Parce qu'en fait, il mange cette mandarine, il a mis un gant, il a enlevé ses gants, mais un seul gant, et il l'a mis sous son bras, et en descendant un petit peu de niveau, il fait tomber son gant, il s'en aperçoit pas, mon œil, mais il s'en aperçoit pas. Et je me suis dit, en fait, ce film est tout sur le petit détail, comme un enfant qui part pour aller à l'école, il disparaît derrière une motte de neige, et en fait, on le revoit ressortir. Et il va voir quoi, comme les enfants savent le faire, contrairement à nous, qui perdons un petit peu de spontanéité à notre regard. Il a vu sans doute la boule de bonhomme de neige qui serait là. Et il se dirige vers, cette boule qui veut, et puis cette boule l'entraîne vers une marche. Et puis, évidemment, ce qui l'entraîne, je pense, d'avoir l'œil ailleurs, c'est parce que, effectivement, son papa, le matin, qui, comme tous les matins, va prendre son café tout seul, parce que c'est quelqu'un qui va travailler dans une usine de poissons, hein, et il part très tôt avant tout le monde. Et puis, en fait, le petit a ses insomnies, donc il vit entre les toilettes, le chien, grignoter dans le réfrigérateur, s'asseoir sur le siège à papa, etc. Et puis, il va dessiner sa cartographie.
Il faut faire des photos aussi.
Il fait des photos parce qu'en fait, vous avez toute une partie du début du film qui est qui ont des petits plans comme ça, comme des estampes sur le Japon, le paysage du Japon contemporain. Et on va avoir ensuite les paysages que fait Takara. Parce qu'il fait des photos pendant ses insomnies, parce qu'il n'est pas l'heure. Effectivement, il va dormir à la gare parce que bah il n'a pas assez dormi. Et donc ce voyage est un dérèglement temporel de ce petit garçon qui va. Il a comme carte un poisson, un poulpe et une tortue qu'il a dessinée. Et c'est là où son papa, il travaille. Donc il était à la recherche d'un lieu. Et il va le retrouver tout seul comme un bon inspecteur, c'est le faire avec des indices. Et ça, c'est assez merveilleux aussi, c'est aussi le détail, le regard du détail, quand il défile comme ça les photos, et puis on entend juste « Hein ?» Donc ce film est charmant, il est charmant, mais il est judicieusement charmant. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est vraiment la chronologie. 24 heures dans la vie, et voilà, 24 heures dans la vie d'une famille où il peut arriver un événement comme ça de bifurcation. C'est un film pour... Je veux dire, les enfants, même quand ils sont désorientés, qu'on le croit, ils trouvent toujours leur chemin. Et ça, c'est une grande satisfaction.
Il y a une chose que je n'ai pas comprise, mais je crois que c'est plutôt le goût de Daniel Manivel, c'est un découpage en chapitres qui m'a paru aussi artificiel que celui des cinq sens de Senses. Alors, il y a le début, après, il y a le marché aux poissons, il y a un long sommeil, bon, pourquoi pas, chapitre 1, 2, 3. Mais j'ai noté qu'il y a quand même une scène de dialogue dans le film, ça ne vous a pas échappé, une seule. C'est quand Takara dialogue avec un chien. Et là, c'est quand même une intensité. Il y a une sorte de langue qui se crée, d'échange entre eux. C'est pour ça, enfin, Antoine Guillaume, je veux bien que vous le voyez comme un extraterrestre. Mais il y a aussi le fait que les cinéastes ont su quand même lui proposer des situations, comme lancer une boule de neige sur un miroir, un réflecteur qui voilà, et avec toute à la fois la grâce et aussi le manque d'habileté d'un tout petit garçon. Et ce sont des moments qui sont saisis parce qu'il y a une proposition des cinéastes, mais qu'il y a aussi ce jeune garçon qui joue sans jouer, comme sans doute la fille de Stéphane de Moustier ou les jumeaux de Stéphane de Moustier qui sont certes dirigés, mais le travail des cinéastes, et c'est là qu'il est subtil et précieux, c'est de capter ce réel-là, Antoine Guillaume.
Et de suivre aussi ce que propose le petit garçon, oui. Parce que manifestement, il avait un caractère très fort et il n'acceptait pas toutes les propositions que lui faisaient les cinéastes. Par contre, il leur en faisait et les cinéastes étaient ravis de sauter à pieds joints dessus. Il y a une très belle scène de recherche d'une voiture ouverte dans la neige, dans une tempête de neige, qui est un moment assez extraordinaire, mais vraiment du cinéma, parce qu'on est à la fois dans
un moment film catastrophe,
dans plusieurs plans, dans la profondeur de champ, dans le suspense, dans une beauté plastique de ce qui s'y joue, et un personnage qui, par ses mouvements, même à moitié masqué par la neige, exprime une angoisse à ce moment-là, parce que c'est vraiment là, on est dans une situation de survie qui est c'est très très fort.
J'ai un gestère.
Non, mais je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je trouve qu'à la limite, s'il faut mettre une réserve au milieu de toute cette unanimité, je trouve que le film s'étire un tout petit peu à partir du moment où justement ce petit garçon devient un tout petit peu moins moteur de son odyssée, ou devient un peu plus passager, peut-être moins dans le train, mais que donc sur la toute fin, que c'est peut-être là que je ressens un tout petit peu la durée. Mais parce que
on a parlé des 5h17 de Senses, c'est 1h15 Takara, faut le dire quand même à nos auditrices, auditeurs.
Tout cela est très relatif, mais je trouve vraiment pendant une heure le film saisissant par absolument tout ce qui s'y joue, en fait. Et comment il donne. Et je trouve que, au fond, j'aime bien le rapprochement que faisait Corinne tout à l'heure, parce que comme le travail de la durée, le travail de la mise en scène dans Senses, au fond, ce que Takara produit, je trouve un état de conscience et de perception qui est altéré en très peu de temps, qui fait qu'on n'entend plus de la même manière, on ne regarde plus tout à fait de la manière, on ne prête pas tout à fait la même attention, on ne reçoit pas de manière sensible les mêmes gestes, les mêmes situations, même si encore une fois il y a quelque chose d'extraordinaire à ce petit garçon qui a été, je pense, très bien choisi, à défaut d'être forcément un très grand acteur, mais il se joue quelque chose vraiment dans la manière dont il est regardé, écouté, dans sa confrontation avec ses environnements et dans ses trébuchements, dans ses titubements, etc., qui vraiment produit très vite quelque chose qui fait qu'on ne reçoit pas du tout ni la durée de cette traversée ni ce qui s'y joue. De très ténu, finalement, en simple spectateur, finalement. On est très vite, là aussi, un peu accueilli et transformé par le film.
Corinne Rondeau, pour finir.
Non, mais c'est vraiment, vraiment une fiction. C'est du début jusqu'à la fin, c'est vraiment une fiction. Si tu, vous disiez Odyssée, ça, elle est vraiment écrite du début à la fin. Je veux dire, oui. Même là.
Oui, c'est pour ça que la fin, pardon, je vous redonne la parole, Corinne, mais la fin que vous évoquez où il est moins acteur, mais moi, du coup, comme on était préparé à regarder ce qui lui arrive et son environnement différent, moi, je trouvais qu'il y avait au contraire une très grande tension, y compris dans cette dernière partie. Corinne nous a interrompu.
Non, non, du tout, j'avais fini. Enfin, c'est vraiment la question de la fic. Pour moi, c'est vraiment, contrairement à Longs Enfants.
Oui.
Où il y a une porosité réelle, fiction. Mmh. Ils ont 3 ans, à 6 ans, vous savez, c'est plus pareil. Et puis comme,
on sait jouer à faire semblant.
Oui, mais là vraiment, c'est vraiment là, c'est écrit comme une odyssée ou une épopée d'un petit garçon. Voilà, c'est vraiment.
Dernier mot, Antoine Guillot.
Oui, non, juste pour préciser que comme pour Senses, ce ne sont pas des acteurs professionnels. Alors le petit, évidemment, mais c'est toute la famille de ce petit garçon qui est filmé. Il y a une façon de capter lors de son retour justement la douceur et le calme qu'il peut y avoir dans des rapports familiaux sereins, qui est très émouvant. Enfin, le fait qu'il revient, ce n'est pas un scandale, mais où es-tu parti? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gestes simples qui consistent à mettre un pansement, à tenir un cartable.
Je crois même que le chien est amateur, hein, il me semble. Julien Lester.
Il y a quelque chose de très beau, en fait, mais très rare, qui s'y joue, auquel on ne pense pas forcément. Antoine le disait presque tout à l'heure, mais c'est un film sans drame, en fait. On ne voit jamais ça au cinéma.
Ouais. C'est un argument qui pourrait paraître contre-publicitaire, mais croyez-nous, il y a de quoi voir. Boris Pinot, un commentaire?
Oui, un mot de Simon Baudry sur Twitter. Des plans fixes du temps qui s'écoule, un regard à suivre, des sons, des images. On est dans du cinéma, l'œil d'un enfant comme objectif, courir en salle.
Bon, courir en salle, faire de l'exercice, courir autour des fauteuils pour aller voir Takara, la nuit où j'ai nagé, de Damien Manivelle et Koe Igarashi, qui est sorti mercredi.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Le troisième sujet de cette dispute cinéma en public du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, c'est Comme des voleurs de Tchabi Molia. Alors, on avait repéré Cassim Otéclin chez Ursula Meyer, c'était dans Home, il était le fils d'Isabelle Huppert. On l'avait retrouvé en jeune Serge Gainsbourg dans le biopic de Johann Sfar. Là, Tchabi Molia l'a choisi pour être cette fois le fils de Cadmérade et Sylvie Testu dans une chronique, la chronique d'une vie de petites arnaques sans beaucoup de lignes d'horizon.
Non, Michel, mais je vais pas y arriver, moi, une semaine. Donne-moi un mois.
Non, non, non.
Marie qui m'a parlé d'un truc, c'est un truc facile qu'on pourrait faire.
Non, mais non, arrête.
Non, mais de toute façon, je peux pas. Je vous ai dit, hein, 70 euros, c'est trop cher.
Attendez, pour 3 bouteilles, grand cru classé.
Monsieur, on peut savoir ce que vous faites là? Le coup du vin à prix cassé, c'est ça? Vous avez une carte professionnelle? Ah oui, très bien, je connais. Non, 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 c'est des gens sérieux, ça. C'est quoi, comme ça? Ah oui, Saint-Emilion 2007, c'est bien, ça, non? Moi, je vous les prends, moi.
Attendez. Je vais vous les prendre.
Ouais, tu vas faire du mouton au-dessus. Un tiers de Cahors, un tiers de Boulawan. Pour le dernier tiers, tu mets moitié Pinot, moitié Sidibrane.
C'est trop dangereux ce que tu lui fais faire.
En 6 jours, on va être tous à la rue. Putain, mais tu te mets dans le crâne, ça, ou non, Mika? Tu m'arraches comme un con pour vous puissiez bouffer, je travaille comme un dingue. Sûrement, il n'y a plus de fric dans ce pays. Il n'y a plus rien.
Mika, nous, il faut qu'on lui foute la paix. Tu comprends, ça?
Je veux faire une école à Paris.
Une école? Une école de quoi?
Vous entendez la mère?
Faire le guignol avec du maquillage et tout.
C'est aucune idée de petit escroc, non?
Parce que c'est comme ça que tu me vois, toi. Comme un petit escroc. Je crois que je fais une dépression.
Alors j'ai appelé le film Comme des voleurs, Camille André me le fait remarquer. Il s'appelle Comme des rois, Comme des voleurs à l'Est. C'était le film du cinéaste suisse qu'on aime.
Lionel
Bayer. Merci beaucoup, Antoine Guillot. Donc là, c'est bien Comme des rois. Si vous allez à une caisse de cinéma et vous demandez une place pour Comme des voleurs, ils vont s'inquiéter. Bon, le vrai titre du film de Tchabi Molia, Comme des rois. Antoine Guillot. Alors, vous y allez avec une certaine méfiance, je crois.
Eh bien non, j'y allais avec une certaine confiance parce que j'avais bien aimé les films précédents de Tchabi Molia qui sortaient un peu du lot du cinéma social français en prenant des sujets, d'ailleurs plus des sujets de ce qui se passe dans des entreprises, par exemple, et avec un regard formel que je trouvais assez intéressant. Donc, j'y allais plutôt, voyez-vous, cette fois-ci en confiance. Alors, évidemment.
Évidemment, le drame.
Je peux commencer par ce qui m'a plutôt plu, c'est-à-dire que dans cette chronique de la mouise qui se passe dans des zones un peu de banlieue, alors qui pour une fois ne sont pas la banlieue parisienne ou lyonnaise, on est plutôt du côté de la Charente et d'Angoulême, par moments il va à rebours de certains clichés, par exemple des jeunes en haut d'une cité avec des jumelles, ce ne sont pas forcément des guetteurs pour des trafiquants de drogue,
c'est pas simplement, des
bibis. Ça peut être simplement une petite arnaque pour faire payer des gamins et mater ce qu'il peut y avoir d'intéressant dans les appartements en face. La façon de décrire la famille, tout ce qui se passe en dehors des deux personnages principaux, et notamment le personnage de Sylvie Testu qui improvise des crèches clandestines à l'intérieur de son appartement, je trouve ça plutôt pas mal. Plusieurs situations comme ça qui sortent un peu du lot commun de ce genre de cinéma. Après, j'ai déjà été très frappé par cette image extrêmement terne, sans épaisseur, qui ne me dit rien, qui a l'air juste attrapé comme ça, par une mise en scène qui, parce que on serait dans un milieu pauvre, doit être à la caméra et doit être un peu faite à l'arrache comme ça, sans qu'il s'y joue vraiment quelque chose. Mais mon vrai problème, après, c'est l'écriture des deux personnages principaux, c'est-à-dire cette relation d'un enfant qui voudrait s'en sortir par la comédie et d'un père
devenir acteur.
Et voilà, et d'un père toxique qui aime beaucoup son fils, mais qui malgré tout l'entraîne toujours dans des mauvais coups. J'ai trouvé ça très forcé dans l'écriture. Je trouve les dialogues assez pauvres, ou en tout cas mal incarnés, avec trop d'intentions. Je sens énormément les intentions derrière. Je trouve Cassie Motiklin plutôt très bien, mais Cadmerade dans une sorte de personnage qu'il a installé depuis un certain nombre d'années, comme par exemple le Baron Noir à la télévision, et il est toujours un peu sur le même registre, c'est-à-dire le gars pathétique mais en même temps tellement humain, qu'il me semble très très forcé, voilà, un manque d'incarnation qui fait que finalement ce film ne m'intéresse pas des masses.
Corinne Rondeau, vous êtes-il intéressé ce Comme des rois?
Comment vous dire? Écoutez.
On écoute. Nous sommes tous oui, Corinne Rondeau.
Moi, j'ai trouvé que finalement, non, mais Cadmerade est à la limite de la comédie. Donc, c'est ça qui est un peu gênant quand même dans le film. Mais il est bien tenu, je trouve, à son endroit, puisqu'on attend qu'il aille faire la grosse blague. Alors, il se met en recul, mais c'est ça qui est un peu problématique pour moi dans le film. C'est-à-dire, je sais pas si c'est une comédie ou pas, en fait. Par contre, je peux remercier le réalisateur de ne pas me mettre de la banlieue crasse, lourdasse, etc. Effectivement, le film relève, en fait, de l'aliénation entre un père et un fils. Par ailleurs, j'ai pas détesté du tout cette manière de vouloir jouer en duo avec le père et le fils. Et j'ai trouvé Cassie Motiklin admirable. Et je crois que ça peut arriver que... qui est de l'héritage aussi en banlieue, c'est-à-dire qu'un jeune de banlieue a envie de faire du théâtre, alors que son père est un filou à faire des plans à 4 sous, quoi, vraiment des bricoles, il risque de l'atoll pour rien du tout, mais en fait, voilà, c'est la sincérité qui est faite avec les moyens du bord. Tout ça, bon, c'est stéréotypé, c'est une typologie, mais en même temps, le film cherche à dire, ben, y a celui qui sait raconter des histoires, c'est le père, et puis il y a celui qui cherche à l'incarner, c'est le fils. Et donc, on peut se dire que c'est bien aussi d'avoir en France, parce que bon, je suis pas très premier degré ou même second degré du cinéma français, ça me fatigue un peu. Je préfère Sense, finalement. Et Senses, pardon. Et donc, j'ai trouvé que, voilà, on voulait juste nous faire quelque chose d'assez léger pour nous dire, il y a aussi de l'héritage. Même si mon père est un filou, parce qu'il sait bien raconter des histoires, finalement, j'ai aussi appris avec lui à faire des mauvais coups, qui étaient des petits coups, mais ces petits coups peuvent devenir une grande vie. Bon, mais c'est vrai que ça finit pas...
On ne dit rien.
Non, on dit rien, mais ça finit un peu bêtement, quand même.
C'est pas ce qu'aime la fin. Julien Gester, sur Comme des rois.
Je sais pas ce qui est tellement mieux que la fin. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un film qui est plus, je trouve, très honnêtement joué, mené, extrêmement ficelé. On pourrait dire bien ficelé, mais surtout très très ficelé. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'assister à toutes les séances de réécriture du scénario. Quand je le vois, ce qui fait que il n'y a pas un détail dans le film, que ça relève de la dramaturgie, de la caractérisation des personnages, de la progression du récit, qui n'est pas là pour raisonner avec autre chose, faire avancer, poser une cheville, on prend de l'élan, on va faire... Et si bien qu'au bout de trois scènes, en effet, il y a deux, trois choses étonnantes au début du film, notamment, je trouve, ouais, comme vous, Antoine Guillot, ils sont presque là pour déjouer les attentes qu'on peut avoir vis-à-vis de ce type de récit. Notamment, je pense à cette... Voilà, quand on découvre cet appartement dans lequel il y a toute cette famille entassée, avec plus tous ces enfants, on s'aperçoit que, par exemple, on ne les connaît pas vraiment dans l'appartement. Enfin, et puis on ouvre la porte, et puis on peut se raconter une chose, et puis en fait, c'est l'inverse. Donc cette histoire de crèche clandestine entre autres combines pour faire rentrer 4,50 € et éventuellement arriver à ne pas se faire expulser ou exploser la tronche par son propriétaire de sitôt. Passer le petit étonnement que peuvent créer ces situations-là, on s'enferme quand même dans un système où je trouve que chaque scène étant tellement là pour préparer pas forcément la suivante, mais celle qui arrivera juste après, que tout est d'une lisibilité totale et que comme il se joue pas, on peut trouver une petite énergie, je trouve, au film, dans les scènes, enfin, en tout cas, un volontarisme qui raconte pas grand chose. Je dois dire qui m'intéresse énormément. Je suis pas sûr que ça raconte grand chose, mais voilà. Mais c'est pas du cinéma totalement éteint, totalement mort. Il y a une espèce d'envie d'aller quelque part. Mais je trouve que tout est tellement verrouillé, corseté, dans des idées de jeu, dans des idées d'écriture qui ont été réécrites 4 fois. Voilà, que je n'arrive pas à savoir en fait où se joue le désir là-dedans, et surtout, à aucun moment, j'ai l'impression d'assister à quelque chose qui se donnerait pour lui-même, quelque chose de gratuit, quelque chose qui ne serait pas là pour servir de promontoire à de socle ou de marchepied, je ne sais pas, à ce qui va arriver ensuite, qui va permettre de ce qui va arriver, enfin, à ce qui arrive encore ensuite d'arriver, etc. Et puis à la fin, c'est fini, on ne sait pas ce qu'on a regardé.
Oh. Bon, moi, déjà, de quoi ça parle, Corinne Rondeau, je trouve l'a fort bien dit.
Ça parle de choses précises, mais je ne sais pas ce que ça dit.
Sur la transmission même un petit peu, moi je suis d'accord.
Avoir
avec
des rêves en banlieue, c'est vachement bien, non?
Voilà.
Il y a aussi ça. Enfin, c'est pas le film que j'irai voir, mais quand même, comme j'en parle, j'ai pas envie quand même. Pas de rêve.
Ouais, moi j'ai une certaine sympathie aussi, sympathie certaine pour Chabi Molia, aussi bien comme cinéaste d'ailleurs que comme romancier, parce qu'il écrit des très beaux livres aussi. Chabi Molia, c'est un écrivain par ailleurs, publié au Toujours au Seuil, je crois, qu'il m'excuse s'il a choisi un éditeur en cours de route, et qu'effectivement, je vois bien les faiblesses du film, et que j'ai davantage envie de m'attacher à ses qualités. Alors, contrairement à vous, Antoine Guillaume, je trouve que Cadmerade, il est à l'endroit juste de ce qu'il sait faire, donc pour moi, ça fonctionne. Peut-être que je l'ai moins vu que vous, j'ai pas vu la saison 2 du Baron Noir, par exemple, je ne me suis pas infligé une chose pareille, mais c'est pas contre lui, mais cette série partait bizarrement. Mais je trouvais bien Cassimothée Klein, c'est vraiment un garçon qu'on a envie de voir, de revoir. Ça existe. Alors c'est vrai que leur rapport est pas ce qu'il y a quand même de mieux écrit dans le film, ce qui est un peu gênant. Moi j'aurais presque aimé un film en parallèle. Est-ce que le cinéaste n'ose pas, ou peut-être aussi vous connaissez mieux que moi, Julien Gester, les conditions économiques des productions du cinéma français qui font qu'il faut que ces histoires racontent ce genre de... qu'on arrive à ce genre d'histoire pour éventuellement qu'une télé achète, etc. Et je crois qu'on est quand même dans toutes les limites du système du financement du cinéma français qui... Je pense que Xabi Molia, il le montre d'ailleurs dans ses romans, a un imaginaire, une façon d'envisager ses personnages bien plus radical que cela. Comme Antoine Guillaume, pour une fois, opine à ce que je dis.
Mais je suis tout à fait d'accord. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Les Conquérants et 8 fois debout avaient une vraie ambition, une vraie originalité qui est sans doute bridée par le système, par le fait qu'il ait dû tourner très vite, qu'il n'est pas forcément, et que pour obtenir des financements actuellement, il faut un scénario ficelé et réécrit.
Et très ficelé, et comme dirait Julien Gester. Vous voulez dire un tout petit mot, Corinne Rondeau?
Oui, Les Conquérants, c'était vraiment beaucoup mieux, je trouve.
Oui, mais 8 fois debout aussi.
Parce qu'il y a des petites... Enfin, il y a une phrase, par exemple, moi, il y a plus d'argent dans ce pays de merde. Bon,
c'est pas d'une finesse folle. Bon.
Non, c'est pas d'une grande finesse, c'est surtout très démagogique.
Bon, comme des rois, enfin,
c'est moins drôle, quoi.
Ben bon, il faut développer cette phrase, parce que dire ça à la fin, alors qu'il est 19h57 et 10 secondes, comment je fais, moi, avec cette phrase, Corinne Rondeau?
Non, mais en même temps, c'est les lieux communs. Mais non, c'est les lieux communs qui traînent partout.
Voilà, allez voir Comme des rois de Chabi Molia, vous aurez une opinion par vous-même. Là, Ah oui, c'est presque la fin. C'est donc l'heure du jeu de la dispute. C'est l'heure où Camille André quitte son live tweet pour venir nous rappeler d'abord la question du jeu d'hier au soir et nous donner sa réponse, Camille.
Eh bien, on se demandait hier quel est le nom de la collection créée aux éditions du Seuil par Chris Marker en 52, et il s'agit de Petite Planète.
Ce soir, des invitations pour l'exposition de Napoléon Stratège. C'est jusqu'au 22 juillet au Musée de l'Armée, à Paris. Quelle est la question?
Eh bien, dans quel film réunissant nul autre que Jean Marais, Michel Simon, Claudia Cardinale, Jean-Louis Trintignant et Orson Welles, trouve-t-on Pierre Mondy dans le rôle de Napoléon?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Une dispute que vous pouvez réécouter bien sûr sur ce site et vous pouvez vous abonner à son podcast. Préparez vos commentaires pour l'émission de lundi 19h, dispute spectacle vivant. Nous serons accompagnés de Philippe Chevillier, Jean-Christophe Briançon et René Solis. À notre affiche Tristesse d'Anne-Cécile Vandalem, en ce moment à l'affiche du théâtre de l'Odéon. Re-Paradise de Gwenaëlle Morin, d'après Paradise Now du Living Theatre. C'est au théâtre de Verdure à Nanterre. Et Le paradoxe de Georges de Yann Frisch, au théâtre du Rond-Point, dans le cadre du festival de Magie Nouvelle.